Chapitre 4. Un bol de soupe, le garçon du lit voisin, les infirmières de nuit. Roland rêva qu'un très gros insecte, un mets d'insecte, pourquoi pas, volait autour de sa tête et se cognait régulièrement contre son nez, des collisions qui étaient plus agaçantes que douloureuses. Il tentait de le chasser de la main sans y parvenir, lui qui avait pourtant des gestes surnaturellement rapides en temps normal. Et chaque fois qu'il le manquait, l'insecte riait. « Mes gestes sont lents parce que j'ai été malade, pensa-t-il. » Non. Pris en embuscade, traîné sur le sol par des mutants ralentis, sauvé par les petites sœurs d'Eluria. Il eut soudain l'image très vivante d'une ombre masculine s'élevant de l'abri d'un chariot renversé, puis entendit une voix rauque et jubilante crier « Bouh !» Il se réveilla en sursaut, ce qui mit son corps en branle dans le hamac compliqué de sangles, et la femme, debout près de sa tête, qui pouffait de rire en lui tapotant le nez d'une cuillère, recula si brusquement que le bol qu'elle tenait dans l'autre main lui échappa. Les mains de Roland jaillirent, aussi rapides que d'habitude. Son incapacité frustrante à attraper l'insecte n'avait été qu'un élément de son rêve. Il rattrapa le bol avant que son contenu s'en échappe. Il ne s'en perdit que quelques gouttes. La femme, sœur Coquina, le regarda avec des yeux ronds. La douleur lui cisailla le dos à cause de la brusquerie de son mouvement, mais elle resta à un niveau bien inférieur à ce qu'elle avait été auparavant. Et il n'avait aucune sensation de déplacement sur sa peau. Peut-être les médecins dormaient-ils tout simplement, mais il avait plutôt l'impression qu'ils étaient partis. Il tendit la main vers la cuillère avec laquelle sœur Coquina l'avait taquinée. Curieusement, il n'était pas surpris que l'une d'elles s'amuse à faire des agaceries de ce genre à un malade endormi. Il l'aurait été, toutefois, si ça avait été Jenna. Et elle la lui donna, écarquillant toujours les yeux.
« Comme tu es rapide! J'aurais juré voir merveille de sorcellerie, et à peine te hissais-tu du sommeil !»«
Ne l'oublie pas, » répondit-il, goûtant la soupe. De minuscules morceaux de poulet flottaient dedans. Il aurait sans doute trouvé ce plat bien fade dans d'autres circonstances, mais dans son état, il avait l'impression d'avaler de l'ambroisie. Il se mit à manger avidement.
« Quel sens ont tes paroles ? » demanda-t-elle.
On ne voyait plus très clair à présent, et les murs de voile avaient pris une nuance rose-orangée qui suggérait un coucher de soleil. Dans ce peu de lumière, sœur Coquina paraissait tout à fait jeune et jolie. Mais c'était une façade, Roland en était certain, une sorte de maquillage de sorcière. Rien de particulier. Roland laissa la cuillère, trop lente, préférant porter le bol à ses lèvres. Il finit ainsi la soupe en quatre grandes rasades. « Vous avez été bien bonne et charitable pour moi. »«
Ah, certes, nous l'avons été !»
le coupa-t-elle d'un ton plutôt indigné. « Et j'espère que votre bonté n'a pas de raison cachée. Sans quoi, sœur Coquina, n'oubliez pas que je suis rapide et que, quant à moi, je n'ai pas toujours fait preuve de bonté. » Elle ne répondit pas, se contentant de reprendre le bol des mains de Roland quand il le lui tendit. Elle s'en saisit avec délicatesse, sans doute pour ne pas effleurer ses doigts. Elle eut un coup d'œil en direction du médaillon qui avait retrouvé sa place sous la chemise de Roland. Il n'ajouta rien, ne voulant pas affaiblir sa menace voilée en lui rappelant que l'homme qui venait de la faire était désarmé, à peu près nu, et suspendu dans les airs parce que son dos ne pouvait supporter le poids de son corps. « Où est sœur Jenna ? » demanda-t-il.
« Oh ! »
fit sœur Coquina, haussant les sourcils.
« Nous l'aimons fort tendrement, sœur Jenna, n'est-ce pas ? Elle nous donne des... »
Elle posa la main sur sa poitrine à hauteur de la rose et simula des palpitations. « Non, pas spécialement, pas du tout, » protesta Roland. « Mais elle s'est montrée gentille. Je ne crois pas qu'elle se serait amusée à me taquiner avec une cuillère, comme d'autres le font. » Le sourire de sœur Coquina disparut. Elle avait l'air à la fois en colère et inquiète.
« N'en dis mot à sœur Marie, surtout pas si elle vient plus tard. Tes indiscrétions pourraient me valoir des ennuis. »«
Qu'est-ce que ça peut me faire ? » ?»«
Je pourrais m'en prendre à celui qui m'aurait provoqué des ennuis en causant moi-même à sœur Jenna, » observa sœur Coquina. « Sans compter qu'elle est déjà sur la liste noire de sœur supérieure. Sœur Marie n'aime pas la façon dont sœur Jenna lui a parlé de toi, ni que sœur Jenna soit revenue ici en portant les clochettes noires. »
À peine les mots étaient-ils sortis de sa bouche qu'elle portait la main à cet organe si souvent indiscret, comme si elle se rendait compte qu'elle avait trop parlé. Roland, intrigué par ce qu'elle avait dit, mais préférant ne pas le montrer, se contenta de répondre « Je me tairai sur ce que tu as fait, si tu ne dis pas de mal de sœur Jenna à sœur Marie. » Sœur Coquina parut soulagée.
« Oui, da, marché conclu !»
Elle se pencha vers lui, prenant le ton de la confidence.
« Elle est dans la maison des méditations. C'est une petite grotte dans les collines où nous devons nous rendre pour réfléchir à nos actions lorsque grande sœur estime que nous nous sommes mal conduites. Elle doit y rester et s'interroger sur son impudence jusqu'à ce que sœur Marie la laisse sortir. »
Elle se tut, puis demanda soudain
« Qui donc est-ce, ce stui-là ? Le reconnais-tu ?»
Elle avait montré le lit voisin de celui de Roland. Il tourna la tête et vit que le jeune homme était réveillé et les écoutait. Il avait les yeux aussi sombres que ceux de sœur Jenna. « Si je le reconnais ?» demanda Roland avec, espérait-il, ce qu'il fallait de mépris dans le ton. « Comment ne pas reconnaître son propre frère ?»«
Ton frère, vraiment ? Il est si jeune et toi, si vieux !»
Une silhouette fit son apparition dans la pénombre, celle de sœur Tamara. Sœur Tamara, qui avait prétendu n'avoir que 21 ans. Dans les quelques instants où elle s'avança vers le lit de Roland, elle eut la figure d'une vieille sorcière de 80 printemps révolus, sinon 90. Puis ses traits se mirent à chatoyer, et elle retrouva l'aspect bien en chair et éclatant de santé d'une matrone d'une 30aine d'années. Sauf dans les yeux. La cornée restait jaunâtre, les coins chassieux et l'expression méfiante.
« Il est le cadet.
Je suis l'aîné, » répondit Roland. « Il y en a 7 entre nous deux et 20 ans de la vie de nos parents. »«
Comme c'est charmant! Et s'il est ton frère, tu dois certes connaître son nom, n'est-ce pas? Le connaître moult bien !»
Avant que le pistolero ne puisse se trahir, le jeune homme intervint.
Elles accroient que, nom de grande simplesse comme John Norman, tu pourrais oublier. Bien folles sont-elles, non pas, Jimmy ?
Sœur Coquina et sœur Tamara foudroyèrent le jeune homme du regard. Elles étaient en colère, mais aussi trompées, du moins pour le moment.
Suffisantes ordres sur lui avaient versé, dit le garçon, dont le médaillon devait certainement proclamer John, aimé des siens, aimé de Dieu.
Ince, retirez-vous en hâte, afin que nous puissions bavarder.
Certes, certes, se rebiffa sœur Coquina, gratitude est bien 20 mots ici, bien 20 mots.
Grande grâce vous rend pour ce qui me fut donné,
répliqua Norman, la regardant sans crainte,
mais point pour chose que déporterait Jean mal intentionné.
Tamara eut un reniflement, fit demi-tour si brusquement que le vent de sa robe parvint au visage de Roland et s'en alla. Sœur Coquina resta encore un peu.
« Sois discret de bouche, et d'aventure quelque personne plus aimée de toi que moi sera tirée de son confinement dès l'aube, et non pas dans une semaine. »
Sans attendre de réponse, elle se tourna et suivit sœur Tamara. Les deux hommes attendirent leur départ, et John Norman dit alors à voix basse
« Mon frère, Oxy ?»
Roland acquiesça. « J'ai pris le médaillon au cas où je rencontrerais quelqu'un des siens. Il te revient de droit. Je suis désolé pour sa mort.
Je te remercie. »
La lèvre inférieure de John Norman trembla un instant, puis il se ressaisit.
« Je savais que les manants verts l'avaient Oxy, mais ces vieilles aridelles refusaient de dire la vérité. Beaucoup furent Oxy. Guerre en ont réchappé. »
Les sœurs ignorent peut-être la vérité.
Non pas, non pas, point n'en doute.
Ne parle guère, sauf pour dire sottises et fariboles, mais sont fort savantes en bien des choses.
La seule qui différença est Jenna. C'est à elle qu'alludait la vieille aridelle quand disait « ton ami », n'est-ce pas ? Roland acquiesça, et elle a aussi parlé de clochette noire.
J'aimerais en savoir davantage, si cela était possible. Elle est grandement différente, sœur Jenna, Ouida, à semblance de princesse, personne qui de son sang tient son rang et à qui refus ne se peut faire, plus qu'à semblance des autres. Je suis resté là, gisant, à faussement dormir, plus sûr, pensais-je. Ince les ai entendus parler. Jenna n'est de retour parmi elles que depuis court temps, et ses clochettes noires ont signifiance particulière. Ince, Marie est toujours celle qui tient le manche. En ma créance, Iselle clochette noire sont objets de cérémonie, comme ce stui anneau que les vieux barons léguaient de père à fils. Est-ce de vrai, elle, qui a mis le médaillon de Jimmy à ton cou?
Oui.
Point ne l'enlève. Jamais. Quelque aventure qu'advienne. Son visage était tendu, terriblement sérieux. Est-ce l'or de Dieu, point ne le sait. Mais l'approcher leur fait grand doloir. C'est grâce à ce stui médaillon que suis encore ici. Sa voix, cette fois, se réduisit à un murmure des plus faibles. Point ne sont humaines.
Oh, peut-être un peu fée, un peu magicienne, mais
non pas!
Avec ce qui était un effort manifeste, le garçon se redressa sur un coude.
De jeteuses, de sortilèges et de sorcières, tu veux parler, sans doute. Ne sont point sorcières, et point ne jettent de sortilèges. Point ne sont humaines.
Mais alors, que sont-elles?
Je l'ignore.
Comment t'es-tu retrouvé ici, John? À voix basse, John Norman raconta alors à Roland ce qu'il savait de ce qui lui était arrivé. Lui, son frère, et quatre autres jeunes hommes, vifs et gaillards, tous possédant de bons chevaux, avaient été engagés comme éclaireurs pour ouvrir la voie à une importante caravane, constituée de 7 chariots de marchandises, graines, nourriture, outils, courriers, et 4 fiancés réservés. Jusqu'à un gros bourg du nom de Tejuas, à quelques 200 miles à l'ouest d'Eluria. Les éclaireurs chevauchaient en avant-garde et en arrière-garde, chacun leur tour. Un des frères chevauchait avec l'autre groupe parce que, expliqua Norman, quand ils étaient ensemble, ils se disputaient comme... « Comme des frères ?» proposa Roland.
« Ouida !»
répondit John Norman, réussissant à afficher un sourire douloureux. Le trio dont John faisait partie chevauchait à l'arrière-garde à environ 2000 des chariots lorsque les Manenvers leur avaient tendu une embuscade à Eluria.
« Combien de chariots as-tu vu là-bas » demanda-t-il à Roland.
« Un seul, renversé. »«
Combien de cadavres ?»«
Seulement celui de ton frère. » John Norman acquiesça, l'expression sinistre.
« C'est à cause du médaillon qu'il n'a pas été pris. »«
Par les mutants ?»«
Non, par les sœurs. Les mutants ne se soucient point d'or ou de Dieu. Ces chiennes, au contraire. »
Son regard se perdit dans l'obscurité qui était à présent presque totale. Roland se sentait de nouveau envahi par la léthargie. Mais ce ne fut que plus tard qu'il comprit qu'on avait mis un somnifère dans la soupe. « Et les autres chariots ?» voulut savoir Roland. « Ceux qui n'ont pas été renversés ?»«
Sans doute, les mutants les ont-ils dérobés. Force celui-ci avec les marchandises. De l'or et de Dieu, point ne se soucie. Des marchandises, point ne se soucie, les sœurs. Elles disposent de leur propre nourriture, à laquelle il est préférable de ne pas penser. » Chose horrifique, comme ces insectes.
Lui et les autres éclaireurs de l'arrière-garde avaient galopé jusqu'à Eluria, mais le combat était terminé à leur arrivée. Des hommes gisaient à terre. Certains étaient morts, mais beaucoup vivaient encore. Au moins 2 des fiancés étaient encore en vie. Les survivants en état de marché avaient été rassemblés par les Manenvers. John Norman se souvenait très bien de celui au chapeau melon et de la femme à la veste rouge en haillons. Norman et les 2 autres avaient essayé de se battre. Il avait vu une flèche transpercer l'un de ses compagnons à hauteur du ventre, puis plus rien. Il avait reçu un coup de massue par derrière et perdu connaissance. Roland se demanda si l'auteur du coup avait crié « Bouh !» avant de frapper, mais ne posa pas la question.
« À mon réveil, j'étais ici, » reprit Norman. « J'ai vu que certains des autres, presque tous, avaient ces maudits insectes sur eux.
Les autres? Dans l'obscurité, les lits luisaient encore comme des îles blanches. Combien ont été amenés ici?
à plus petite estime, vain. Il guérissait, les insectes les guérissaient, puis il disparaissait. Je m'endormais, et quand je me réveillais, un lit de plus était vide. Un par un sont-ils partis, jusqu'à ce que ne demeure plus que moi et ce stui-là, plus loin. » Il regarda Roland, la mine solennelle. « Et si fais toi, maintenant ?»
Norman, Roland avait la tête qui tournait. « Je sais ce qui t'arrive, » le coupa Norman. Sa voix paraissait venir de très loin, peut-être de l'autre côté de la courbure du monde.
« C'est la soupe. Un homme doit cependant manger, une femme aussi. Si ces femmes de nature, de vraies, celles de ces lieux points ne sont de nature. Même Jenna n'est pas de nature. Jolie Minois n'est pas preuve. » Sa voix devenait de plus en plus lointaine. « Et comment que Belle sera comme les autres en fin de fin, celle mes paroles en toi ?»«
Peut pas bouger. » Même ces trois mots lui avaient coûté un énorme effort.
« Non pas !» Norman se mit soudain à rire. C'était un choc d'en entendre l'écho au milieu des ténèbres croissantes qui remplissaient la tête de Roland. « Ce n'est point qu'herbe à dormir qu'elles mettent en leur méphitique bouillon, mais aussi poudre paralysante. Je me porte comme charme au printemps, mon frère. Pourquoi crois-tu que je sois toujours ici ?»
Norman lui parlait à présent non pas depuis l'autre côté de la courbure du monde, mais depuis la lune, peut-être.
Il dit « À ma créance, point ne reverront ni toi ni moi le soleil briller sur un arpent de terre. »
« En quoi tu te trompes ?» voulut répondre Roland, et même poursuivre dans cette veine, mais pas un son ne sortit de sa bouche. Il mit à la voile vers la partie cachée de la lune, semant tous ces mots dans le vide qui s'y trouvait. Il ne perdit toutefois jamais complètement conscience. La dose d'herbe à dormir dans la soupe de sœur Coquina avait peut-être été mal calculée, ou peut-être cela tenait-il à ce qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion d'exercer leur science malfaisante sur un pistolero auparavant, et ignoraient qu'elles avaient affaire à l'un d'eux. Sauf, bien entendu, sœur Jenna. Elle savait. À un moment donné, au cours de la nuit, des murmures, de petits rires et de légers tintements le tirèrent des ténèbres où il s'était enfoncé, ni tout à fait endormi, ni tout à fait inconscient. Autour de lui, leur chant devenu si permanent qu'il ne l'entendait presque plus, stridulait les médecins. Roland ouvrit les yeux. Il vit une lumière faible et chancelante qui dansait dans l'obscurité. Petits rires et murmures s'étaient rapprochés. Il essaya de tourner la tête, mais en fut tout d'abord incapable. Il se reposa, rassembla toute sa volonté en une dure boule bleue et essaya de nouveau. Cette fois-ci, sa tête bougea. Pas beaucoup, mais un peu suffisait. Il y avait là sœur Marie, sœur Louise, sœur Tamara, sœur Coquina et sœur Michela. Elles remontaient la longue allée de l'infirmerie plongée dans l'obscurité, riant comme des enfants qui prépareraient une blague. Elles portaient de grands cierges fichés dans des bougeoirs d'argent et les clochettes de leurs guimpes ne cessaient d'émettre leur babil argenté. Elles se rassemblèrent autour du lit de l'homme à barbe. À l'intérieur de leur cercle, la lueur des cierges se fit plus forte, montant en une colonne chatoyante qui se perdait bien avant d'atteindre les soies du plafond. Sœur Marie dit quelques mots. Roland reconnut sa voix, mais ne distingua pas ce qu'elle disait. Elle ne parlait ni la langue haute ni la langue basse, mais un autre idiome, tout à fait différent. Une phrase revint plusieurs fois. « Can de lac, mi him en tov. » Mais il n'avait aucune idée de son sens. Il se rendit compte qu'il n'entendait plus que le tintement des clochettes. Les mets d'insectes s'étaient tus. « Rasme, on, on !» cria sœur Marie d'une voix rude et puissante. Les cierges s'éteignirent. La lumière qui avait filtré à travers les ailes de leur guimpe, alors qu'elle faisait cercle autour de l'homme barbu, disparut aussitôt, et ce furent de nouveau les ténèbres. Roland attendit ce qui allait se passer, la peau glacée. Il essaya de fléchir les muscles de ses mains, de ses pieds, sans y parvenir. Il avait réussi à faire pivoter sa tête de peut-être 15 degrés. À part cela, il était aussi paralysé qu'une mouche encoconnée dans une toile d'araignée.
le tintement à peine audible dans l'obscurité, et des bruits de succion. Dès qu'il les entendit, Roland comprit qu'il les avait attendus. Une partie de lui-même avait toujours su qui étaient exactement les petites sœurs d'Eluria. S'il avait été capable de bouger, il aurait porté les mains à ses oreilles pour ne rien entendre. Mais tel qu'il était, il ne pouvait que gésir, entendre et attendre que cela cessât. Ce qui prit longtemps, lui parut durer une éternité. Elles émettaient les bruits de gorge et les grognements de cochons bafrant le contenu à demi liquéfié de leur auge. Il y eut même un rot retentissant, suivi de nouvelles manifestations d'hilarité, qui s'interrompirent lorsque Sœur Marie lança un simple « Haïs !» sec. Une fois, une seule, il y eut un cri bas et prolongé, émis par l'homme barbu. Roland en était certain. Ce fut son dernier, de ce côté-ci de la clairière. Puis les borborygmes qui ponctuaient la rumeur de leur ripaille commencèrent à aller en diminuant, et les insectes se remirent à striduler, tout d'abord de manière hésitante, puis plus décidée. Les murmures et les petits rires reprirent. Les cierges furent rallumés. À ce moment-là, Roland avait la tête tournée dans l'autre direction. Il ne voulait surtout pas qu'elle sache ce dont il avait été témoin, mais de plus, il n'avait aucune envie d'en voir davantage. Il en avait assez vu, assez entendu. Rires et murmures, toutefois, venaient en direction de lui. Il ferma les yeux, se concentrant sur le médaillon posé sur sa poitrine. Est-ce l'or de Dieu? Point ne le sait, mais l'approcher leur fait grand doloir, avait dit John Norman. C'était un soulagement de le savoir, tandis que les petites sœurs se rapprochaient, bavardant et murmurant dans leur étrange langue. Le médaillon lui semblait être une protection dans cette nuit. Faiblement, très loin, Roland crut entendre le chien à la croix aboyer. Lorsque les petites sœurs l'entourèrent, le pistolero se rendit compte qu'il sentait leur odeur, une odeur pas très forte, mais désagréable, une odeur de viande avariée. Et au fait, qu'auraient pu sentir d'autres de tels êtres? Ah! Le beau sire que nous avons là, dit Sœur Marie d'un ton bas et méditatif. Mais quel affreux sigule porte-t-il? Observa Sœur Tamra. On va le lui enlever, proposa Sœur Louise. Et nous aurons des baisers, lança Sœur Coquina.
Des baisers pour chacune,
conclut Sœur Michela avec tant d'enthousiasme et de ferveur qu'elles éclatèrent toutes de rire. Roland découvrit alors qu'il n'était pas entièrement paralysé en fin de compte. Au bruit de leur voix, une partie de son corps s'était éveillée de son sommeil paralysant et se tenait dressée. Une main passa sous sa camisole d'hôpital, toucha le membre raidi, l'encercla et le caressa. En proie à une horreur silencieuse, feignant de dormir, il sentit presque tout de suite une moiteur chaude s'écouler de lui. La main resta un moment où elle était, le pouce frottant contre le membre en train de se ratatiner. Puis elle le lâcha et remonta un peu plus haut, trouva la petite flaque humide sur le bas de son ventre. Petit rire, doux comme la brise. Tintement. Roland entr'ouvrit imperceptiblement les yeux pour regarder ces visages d'un autre âge qui riaient de lui à la lumière des cierges. L'œil brillant, la joue jaunâtre, des dents si longues qu'elles dépassaient la lèvre inférieure. On aurait dit que Sœur Louise et Sœur Michela s'étaient laissé pousser un bouc, sauf que ce n'était pas la marque sombre d'une barbe qu'il voyait, mais le sang de l'homme barbu. Sœur Marie tenait ses mains en coupe. Elle les passa d'une sœur à l'autre et chacune lécha l'intérieur à la lumière des bougies. Roland ferma les yeux, attendant qu'elles achèvent cette libation et partent. Ce qu'elles finirent par faire. « Je ne pourrai jamais me rendormir », se dit-il. 5 minutes plus tard, cependant, il était perdu pour le monde et pour lui-même.